Et je te laisse dire le nom de ta chronique, Camille, elle écrit en gros, elle prend tout l'espace.
Les pérégrinations néo-rétro-culturelles. Aujourd'hui, on va parler de Kimagure Orange Road. Alors, je préviens, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la transformation d'un manga en véritable fer de lance de la pop culture japonaise. Donc, on va commencer par une petite remise en contexte. Bon, c'était pas non plus il y a deux jours. On est en 1984. Voilà, donc si jamais ça n'a pas grand rapport avec le roman qui est sorti en 1949 du même nom, alors que le film est bien sorti cette année-là, on notera quand même la sortie du Macintosh, des premiers ordinateurs d'IBM. Ok, en face, en musique, on est côté Mylène Farmer, Patrick Bruel, Tien Dao, Bon Jovi ou Madonna avec Like a Virgin. Là, je pense que commencer un petit peu
même
à vous remettre.
Pour
un peu
moi,
dans le
c'est
contexte.
Vieux. Hein.
Ah oui, ah, c'est moi vieux, j'allais oui. dire. L'eau,
si même pour l'eau,
c'est
vieux,
pour toi.
C'est en 84, là. Au cinéma, c'est SOS Fantôme avec Terminator, Conan le Destructeur,
ah oui.
Gremlins,
oh.
Starfighter.
Ah,
voilà. On en est à se sentir vieux, du coup. À votre avis, au Japon, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on a en face? 1984, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en face de l'apparition de Canal+ et des Tortues Ninja?
Donc c'est quoi, mi-80?
Juste 1984 sur cette année-là précise.
84 précise.
Il y a des trucs genre qui sont passés au Club Dorothée après, non? Les
ouais, qui sont apparus. Apparu. Ouais. Voilà, bah,
ouais,
le survivant est apparu en 1984 en manga.
Voilà. Ouais, voilà.
Il va y avoir aussi, je pense que... Alors peut-être pas toi, Troyer, parce que ça va peut-être pas trop ta cam, mais Jeanne et Serge.
Oui.
Mais c'était la cam de qui, bordel? C'est de la merde. Serge, il est où? On le voit
ma
pas.
Ma sœur aimait bien, je me souviens.
Putain, ouais, appelle-la.
Ma mère a gardé des bons souvenirs.
Serge,
de ça,
il est pas là. Il est sur la jaquette, c'est tout.
Mais bien sûr, on va pas parler de tout ça.
Non, non, parce qu'on va parler encore d'autre chose. Parce que plus qu'un simple titre action-aventure, moi, je vais vous parler d'une comédie romantique qui m'a jamais marqué, qui a changé mon point de vue sur l'esthétique, qui est donc Kimagure Orange Road de Matsumoto Izumi. Donc si jamais ça ne vous dit rien sous ce nom-là, c'est normal, puisqu'il faudra attendre 1998 pour que l'éditeur J'ai lu, qui existe toujours mais qui ne fait plus de manga du coup, nous offre une première édition de ce joyau en 18 tomes. C'est quand même moins long qu'Initial D. Voilà,
c'est vrai, chance, à préciser, Initial D rappelle combien?
48.
Ah voilà, ça fait beaucoup.
Ça a aussi été adapté en anime, tu vas nous
ça
en
ça a aussi été adapté en anime, mais je vais vous en parler, parce qu'avant, il faut quand même que je vous raconte un peu de quoi ça parle. Donc, on est ici dans l'histoire de Kasuga Kyosuke, qui est notre héros. Il a perdu sa mère très très jeune, et il vit depuis avec son père, qui est photographe de grand renom, et ses deux petites sœurs, qui sont Kurumi et Manami. Ce seraient des gens complètement banals si, de par les gènes de leur mère, la dernière génération de la famille n'était pas douée de pouvoirs surnaturels. Alors, j'en profite pour reposer un petit peu une petite question. Quand vous étiez ado, aurait été quoi votre pouvoir surnaturel favori?
Contrôler la flotte, c'est sous-côté la flotte, vu que le corps humain est composé de flotte.
J'avoue.
Alors moi j'aimais bien la télékinésie.
Moi me téléporter.
Là pour le coup vous êtes servi, puisque téléportation, prestidigitation, voyage dans le temps, hypnose, rêve prémonitoire, tout y passe, et c'est justement le problème, c'est qu'à force d'utiliser ses pouvoirs n'importe quand, ils se font repérer tout le temps par le voisinage et ils se retrouvent à déménager encore et encore. Mais cette fois-ci, justement, ça change, puisque par une chaude soirée, alors qu'ils viennent tout juste d'emménager dans un nouvel appartement, Kyosuke se balade le long d'un escalier en bordure d'un parc, et alors qu'il arrive enfin tout au bout de l'escalier, il attrape par réflexe un chapeau de paille rouge qui est emporté par le vent. Et c'est là qu'il fait la connaissance de Madoka Yokawa, qui est donc l'autre héroïne de l'histoire, et qui va mettre en place la question qui reste en suspens tout au long de cette histoire, est-ce qu'il y a 99 ou 100 marches dans l'escalier? Donc, Madoka est plutôt amusé de la façon dont il va essayer de chercher un compromis pour résoudre cette question. Et du coup, elle va lui offrir son chapeau qui restera jusque-là dans sa chambre. Les jours passent et c'est le début de la nouvelle année. Donc, Kyosuke et ses deux sœurs rentrent en cours. Et sur le chemin, il manque de se faire renverser par une moto qui transporte la jeune et pétillante Hikaru Hiyama. Donc, le motard se fait envoyer sur les roses et il y a une nouvelle prise de bec, du coup, entre Hikaru et déjà toute la famille. Autant dire que ça commence plutôt mal. Quoique, malgré le fait que ça commence pas très bien, il y a quand même un beau hasard puisque Kyosuke se retrouve dans la même classe que Madoka, où il fera la connaissance à l'occasion de deux adolescents avec une libido plutôt débordante qui s'appellent Seiji Komatsu et Kazuya Hata. Donc ces deux-là, ils vont lui expliquer que Madoka, elle jouit d'une réputation assez pitoyable au sein d'établissement, puisque malgré son talent indéniable pour le saxophone et sa beauté à rendre la vue aux aveugles, elle est connue pour son agressivité et ses mauvaises relations. Donc Kyosuke au début ne lui croit pas trop, il garde ses distances, mais bon, du coup jusque-là, il essaie juste de garder une vie très très normale. La journée se continue, presque normalement, sauf que Hikaru se fait prendre à partie par la bande de motards qu'elle a envoyé balader le matin même en arrivant. Donc Kyosuke tente d'intervenir, mais finalement, il fera pas grand-chose, et c'est Madoka qui va devoir intervenir et se battre toute seule contre toute la bande de motards pour réussir à régler la situation. On pourrait dire que tout est bien, se finit bien, et à l'instar d'un bon vieil animé de baston des années 70, Madoka conclut le combat en sortant une clope, et du coup elle se réengueule directement avec Kyosuke. Voilà, ça commence bien, c'est normal, on est en 1984. Hein. On repart le lendemain, voilà, donc étonnamment avec Madoka, ça va mieux, c'est plutôt amical. Par contre, Hikaru, non, ça s'arrange pas du tout. Mais ça va changer, puisque le problème quand on est habitué à tout le temps utiliser ses pouvoirs, c'est qu'on fait pas forcément très très attention, et en fait, dans le sport, bah, y a plein de moments où, sans utiliser ce pouvoir, c'est chiant. Genre au basket, quand tu utilises pas tes pouvoirs, c'est casse-couille, le ballon il rentre jamais là où tu veux. Pas pratique. Donc, Kyosuke il déprime un petit peu, il reste un petit peu tranquillement sur le terrain en essayant un petit peu de calmer sa déprime, et sans savoir qu'il y a quelqu'un qui l'observe, il est tranquillement au milieu du terrain, il jette le ballon, et grâce à ses pouvoirs, paf, panier. Pratique. Le truc qu'il n'était pas au courant, c'est que Hikaru était en train de le regarder et forcément depuis elle est persuadée que c'est un surdoué. Pas de chance. Et en plus de ça, elle a plutôt de la chance elle, puisque au détour d'un couloir dans la journée, ils vont se croiser, ça va se terminer en bisous et à partir de là, il va garder son surnom de Darling tout au long de toute l'histoire. Seulement, ce qu'il apprendra seulement qu'un petit peu plus tard, c'est que Hikaru, c'est la meilleure amie de Madoka. Donc il va être tourmenté entre l'énergique et pétillante Hikaru et la sublime et complexe Madoka, sur laquelle jettera-t-il son dévolu. Ce sera donc là tout le plot de l'anime, du manga, pardon. Donc je m'arrêterai ici pour ça. Avec juste cette question-là, qu'est-ce que vous auriez choisi ?
Entre les deux, tu veux dire ?
Entre les deux, oui. C'est la vraie question de toute l'histoire, en fait.
Pour avoir regardé l'anime, justement, parce qu'en fait, le nom français, c'est Max et compagnie.
Oui.
Voilà.
Avec Pamela et Marina. Et bien moi, j'ai toujours été très attirée par Pamela. Parce que j'adorais son côté pétillant, drôle. Et moi, j'aurais choisi Pamela et j'aime
ouais,
bien Pamela.
Même, hein. La pétillante, drôle.
Ouais.
Un peu
regarde,
garçon, ouais. Entre parenthèses. C'était Pamela. Moi, okay. J'aimais trop Pamela.
Ah, les deux sont très compliqués, d'autant plus après quand tu connais l'histoire. Mm. Si le manga a beaucoup contribué en fait à la légende de la série, il faudra quand même attendre l'adaptation animée pour vraiment inscrire cette saga dans l'histoire de la pop culture. Et donc pour ça, il faudra se rendre 3 ans plus tard, en 1987. Déjà un tout petit peu moins vieux. Retour au Japon, pour le coup. Donc sous la réalisation de Osamu Kobayashi et du chara-design de Tera Dakenji, donc le studio Pierrot nous livre une adaptation en 48 épisodes qui se retrouvera en 1990 sur l'A5 dans Youpi l'école est finie, en 97 dans Le Club Dorothée et un petit peu plus tard sur Manga CTMC, donc à partir des années, début des années 2000. Donc évidemment, tous les persos sont grimés dans ce que tu as appelé tout à l'heure Keiichi, Max et compagnie, hein, qui donc le nom VF qui est chez nous, alors sachant qu'il y a énormément de scènes qui ont été recoupées pour que ce soit diffusé chez nous. La série sera suivie en 1988 par le premier film d'animation qui s'appelle Kimagole Olanjo Tanohi Nikaeritai, ou Max et compagnie Je veux revenir à ce jour, un film qui fait 1h08 et qui est réalisé par Mochizuki Tomomi et qui conclut pour de bon la jeunesse de nos héros. Si jamais vous voulez vraiment avoir la fin pour de bon de l'histoire, il faut regarder le film. Pas le choix. Il faudra quand même attendre 1989 pour avoir les visuels avec qui vont complètement terminer toute l'histoire. Là, on pourrait se dire que c'est fini. Mais non.
Mais non, mais non, monsieur.
C'est trop facile.
Mais non, monsieur
Kabash.
Oh putain.
Non. Bah oui, bien sûr. Puisque si vous vous souvenez, j'ai parlé du chara-designer. Personne dont on parle pas souvent. Chez nous, il s'appelle Tera Dakenji. Et il a tellement aimé les personnages qu'il a voulu leur donner une suite sous la forme d'un roman que Matsumoto Izumi, l'auteur original, aurait pas pu leur offrir. Donc, ils ont fait une collaboration ensemble. Et en 1994, ils ont sorti un premier roman qui s'appelle Cet été-là. Qui est donc sorti 10 ans après le début de la saga et qui a été, aussi étonnant que ça puisse paraître, un franc et surprenant succès commercial au Japon. Ce à quoi en 95 est sorti un second tome qui s'appelle La Pyramide du Soleil et qui cette fois-ci va prendre un style de narration qui est extrêmement proche du cinéma américain. Voilà. Mmh. 1996, donc, la saga va avoir droit à sa toute dernière adaptation d'animé avec le film d'animation Shin Kimagole Olanjo Tsoshite Hanonatsu no Hajimari, qui sortira chez nous sous le nom de Max et compagnie et maintenant le début de l'été, donc qui va faire son entrée en salle japonaise le 2 novembre 96.
Attends, mais tu veux dire que tous ces films là, ces OAV là, ils sont sortis chez nous au cinéma?
Oui. Ils sont sortis, alors pas au cinéma, par contre tu peux les trouver, mais j'en parlerai tout à l'heure parce que ça encore c'est d'autres histoires. Donc cette fois-ci, c'est Yuyama Kunihiko qui est à la réalisation, qui va devenir le troisième homme à tomber sous le charme irrésistible des personnages. Il va se traduire par des très très bons choix d'adaptation scénaristique, par une très très grosse communication avec les deux premiers papas de la saga, et par notamment l'évocation justement de ce monsieur dans la postface du troisième roman, preuve de son implication. Et il l'a quand même bien taffé. Le film, c'est pas un très gros succès commercial, notamment à cause du design qui est très très inspiré des années 90 et non plus des années 80. Voilà, mais il fera quand même une très très bonne figure de poupe à la saga, puisqu'il présente un aspect qui est bien plus mature sur la vie de jeunes adultes de nos héros qui ont grandi désormais, sans pour autant exclure tout le côté surnaturel. Voilà. Et enfin, il faudra donc attendre 1997 pour avoir le troisième roman dont je viens de parler, qui s'appelle Les Souvenirs de Madoka, qui est en fait un rassemblement de nouvelles, Souvenirs secrets et Le dangereux sourire de l'ange, et qui lève les dernières zones d'ombre de la saga. Sachant que cette fois-ci, du coup, à l'illustration, c'est Takemiki Goto qui s'en occupe, puisque Matsumoto est trop occupé, qui va à son tour donner un style un peu plus 90s. Voilà, ce qui sera de toute façon malheureusement un petit peu reproché par la suite. Sachant que dans ce roman particulier, vous avez énormément de références plus de pop culture qui y sont intégrées et c'est très très bien fait. Voilà, ce qui va conclure pour de bon le côté écrit de la saga. Chez nous, pour les découvrir, il faudra attendre 2004 avec l'éditeur Déclic Images qui va nous les sortir en DVD en format soit VF soit VastFR censuré. Généralement assez cher, minimum 60€ si vous les voulez. Sachant que la qualité ce sera bon, très très variable. Kazé s'occupera de tous les films et OAV dont on a parlé déjà. Sachant que là aussi, il faut y mettre un prix avec un petit peu d'Ibex qui va aussi faire. Sachant que si vous voulez les romans, du coup, Delcourt Tonkam va éditer les romans qui seront offerts dans les coffrets. Mmh. C'est la seule et unique façon de les avoir actuellement, à part les acheter seuls, mais bon, ça a un prix également. Et enfin, du coup, pour le manga, il faut savoir que depuis l'édition que j'ai lue de 1998, il n'y avait jamais rien eu. Donc Delcourt Tonkam va s'occuper en 2011 de ressortir les mangas, les 18 tomes, même si les premiers tomes vous coûtent à peu près 30€ pièce et les derniers sont plutôt autour des 200 balles.
Ah oui, donc voilà.
Ah oui, bah le marché du manga rétro, entre parenthèses, oui.
Voilà, entre
c'est
parenthèses.
C'est quelque chose
avez,
aussi.
Hein. Oh, c'est un peu comme Delcourt Tonkam,
si vous avez envie de réimprimer, n'hésitez pas, on dira rien.
Exactement. Voilà.
On pourrait se dire que c'est mort en 2011, et toujours pas, puisque en 2021, Universal Music Japan va ressortir 7 33 tours qui correspondent donc aux OST qui sont composés par Shiro Sagito, et qui sont vendus à l'époque, en 87 et 88, à la sortie de l'anime. Donc si jamais vous n'avez pas peur de faire importer des vinyles, moi pour le coup je vous les conseille, c'est des œuvres d'art onirique d'excellente facture et qui sont accompagnées de très bons posters et illustrations. Pour en posséder 6 des 7 chez moi, je peux vous dire que c'est très très bien. Alors, donc la vraie question... finalement, c'est pourquoi est-ce que je vous emmerde avec un truc qui a 30 ans et qui coûte super cher.
Oui.
Oui. Enfin, la vraie réponse, la question pourquoi est-ce que vous êtes là. D'un point de vue scénar, on pourrait s'attendre que ce soit une banale comédie romantique, et en fait, c'est pas du tout le cas. On sent au fur et à mesure de l'évolution de la série et des personnages qu'on va se rapprocher petit à petit d'un point d'acmé, qui est le point où on sait qu'à partir de ce point-là précisément, ça bouleversera à jamais leur relation et ça va transformer le bon côté adolescent en une relation entre adultes. C'est une assurance que très bientôt, le cycle quiproquo, réconciliation, rapprochement qu'on a dans toutes les comédies romantiques sera en fait plus qu'un seul souvenir mélancolique. Qu'un simple enchaînement de cette comique et de quiproquo de bonne facture, c'est plus que ça, c'est vraiment une réelle histoire de liens triangulaires uniques qui donne toute la profondeur à toute la saga. Alors, donc c'est loin d'être de toute façon le premier à faire ça, c'est vrai. Mais la chose qui va vraiment un petit peu révolutionner tout ça, c'est que dans la réalité, et là pour le coup c'est à vous de répondre, comment est-ce que généralement ça se termine un triangle amoureux ?
En général, ça se finit avec une personne déçue.
Je dirais trois
déçus. En général, parfois trois.
Voilà, parfois trois, parfois deux, parfois une. Ça
bravo Sherlock.
Ça se termine pas très bien. Voilà, donc force est de constater que ça se termine rarement bien, et ça se termine encore moins rarement comme la plupart des comédies romantiques ou harem manga qui généralement règlent le problème en faisant des fins ouvertes. Ici, c'est pas le cas. Donc, l'amour, ça demande parfois de faire des choix. Les choix, ça apporte des changements drastiques dans la vie. Et ici, pour notre héros, eh ben, vous pouvez en profiter dans les romans et le film de 1996, où on va passer de l'expression d'un amour naissant, avec quelque peu immature, à la construction d'une relation de couple entre adultes qui éprouve un profond attachement l'un envers l'autre, mais aussi l'amitié et la force que ça peut entraîner malgré la distance. Donc, le tout est mis en scène d'une façon qui transpire l'affection des auteurs pour les personnages. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut que remarquer. Ce qui va de plus évidemment rendre justice à leur charme et à leur complexité. Donc, plus que de simples archétypes, c'est vraiment, on est vraiment face à des personnages, à l'histoire et à la construction complète et complexe. Les deux sont importants. Donc, c'est sans conteste qui va, à mon avis, à mon sens, les rendre aussi intéressants et aussi magnétiques. Côté graphique, la saga, ça va énormément se démarquer par un design qui est extrêmement personnel de la part de Matsumoto Izumi, qui en fait est une excellente synthèse de l'image, tout du moins que moi je vais avoir, peut-être que si vous avez grandi dans les années 80, vous allez me dire que c'est pas vrai, mais d'un ado classique des années 80 avec une légère fragrance d'érotisme adolescent, instant d'hésitation, rêve, simple quotidien, questionnement, on mélange le tout et vous obtenez un cocktail qui n'est que sublimé par l'adaptation animée, notamment grâce à Terla Kenji. Le tout est sans conteste. Les deux derniers éléments les plus marquants en fait de tout ça, c'est la raison pour laquelle l'animé les gens s'en souviennent encore, c'est que si tous les épisodes ne sont pas des chefs-d'œuvre, certains jouissent d'une réalisation qui est absolument hors norme, qui joue de l'ouverture justement du style et du scénario pour pouvoir placer énormément de références pop culture et des joyeux de réalisation. Voilà, avec une attention très particulière qui donne une prétention qui est autrement plus singulière qu'une simple comédie romantique. Voilà. Et une dernière chose, alors là encore, ça va être à vous de répondre, qui est la trame sonore. Si jamais je vous dis Fairy Tail, One Piece, Naruto, Bleach, Nana, Evangelion, Berserk, Initial D, City Hunter, Cowboy Bebop ou encore Trigun, il y a un point commun pour vous, c'est lequel ?
C'est des bons, c'est de la bonne musique ?
Voilà.
La bonne musique, ouais.
Mais si tu veux un nom, je l'ai pas. Hein.
Alors le nom, non, parce que le nom, c'est jamais le même.
Bah, mais, c'est pour ça, je me dis, oui, putain, c'est le même qui a fait tout ça ! Oh là là !
Eh ben, on n'est pas si loin que ça, finalement. Parce que du coup, c'est un peu l'ultime point. C'est que pour faire un bon animé, c'est une chose. Mais par contre, si jamais on veut vraiment que l'animé reste dans la légende, dans ce cas-là, il faut un OST de légende. Et ici, du coup, c'est Sagi Tsuchiro qui travaille, qui va nous en mettre plein les oreilles. Le monsieur, il est quand même crédité aux OST de Evangelion et Bleach.
Oui,
voilà, c'est lui.
Rien que ça.
Ça va, donc le gars, c'est bon. On verra plus tard qu'il sait ce qu'il fait quand même, un petit pop. Et il va nous régaler avec une interprétation extrêmement jazz du meilleur de ce qu'on va aujourd'hui appeler la city pop, qui à l'époque portait juste le nom de pop japonaise. Kimagure Orange Road, loin de la comédie à l'eau de rose pâle, parce qu'après tout, on est dans les années 80 à l'époque, c'est la mode. C'est un véritable fer de lance du style 80s qui gagne haut la main sa place au panthéon de la pop culture, si bien que même plus de 30 ans plus tard, alors que l'auteur est décédé, c'est Kimagure Orange Road, ça suffit. Ça a généré suffisamment d'affection pour qu'il y ait une vraie communauté de fans du premier jour comme de nouveau comme moi qui se forme autour d'elle et qui continue encore et toujours à communiquer malgré le peu d'attention des éditeurs qui en ont un peu rien à foutre, on va quand même pas se le cacher. La saga n'est pas morte, très loin de là, et tant qu'il y aura encore des gens pour l'aimer, elle continuera à vivre.
Oh, quelle morale. Oh, c'est fou.
Mais oui. Totalement.
Ah, tu fais voyager. Hein. En fait, tu es là pour faire revivre ce qui est censé être mort, mais non. Je pense que tu as fait découvrir ou redécouvrir des choses, tu vas replonger les gens dans leur passé en enfance, et on t'en remercie, et c'est ces petits retours dans le passé que l'on attend de toi. Ça fait extrêmement plaisir. Merci encore à toi, mon cher Camille.